Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, pertinente ou moins, mais toujours pertinente dans 24 notes secondes, les petites images qui bougent quelque part depuis la fin du 19e siècle. Alors cela, je ne le fais pas à chaque émission, mais de temps en temps, il convient de rappeler que notre générique est bien évidemment une musique de film, en l'espèce celle d'un petit bijou signé Blake Edwards, 1962, Audrey Hepburn et George Peppard dans les rôles principaux. Ça s'appelle Diamant sur canapé en français, plus connu Breakfast at Tiffany's in English, et le compositeur, eh bien, c'est le regretté comme il nous manque Henry Mancini, dont le Moon River, que vous avez donc entendu, obtint cette année-là l'Oscar et un succès considérable. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, c'est un compositeur français que nous allons évoquer, le dénommé Grégoire Élie Crétely, qui prendra le nom, pour des raisons inconnues, de Gérard Calvi, né le 26 juillet 1922 à Paris, où il est mort quelques décennies plus tard, le 20 février 2015, pour être plus précis. Gérard Calvi fut compositeur, chef d'orchestre, il a écrit plus de 300 chansons, 50 partitions de films, des comédies musicales, des opéras bouffes, bref, un homme polyvalent et très très actif, et il faut dire que son papa, Robert Crétely, était lui-même compositeur et chef d'orchestre. Alors à vrai dire, on sait bien peu de choses, en tout cas dans mes petites fiches, qui ne me quittent jamais, il y a bien peu de choses sur la biographie de Gérard Calvi, qui cela dit n'est pas notre sujet. Rappelons juste qu'il fit ses études musicales pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui dut ne pas être si facile, et qu'il rejoignit d'ailleurs, alors la petite fiche ne le précise pas, mais j'imagine peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 13e bataillon médical et de la musique de la 2e division blindée. Comment pourrais-je inventer un truc pareil? On va écouter très rapidement un extrait de la première bande originale sélectionnée ce jour. Il s'agit d'un film d'Henri Verneuil, tourné en 1959, même si Gérard Calvi avait débuté sa filmographie en 1951. Et en 1959, eh bien, il rejoignit le tournage du Grand Chef, un film d'Henri Verneuil dans lequel celui-ci retrouvait Fernandel, avec lequel il aura beaucoup tourné, et notamment, bien évidemment, La Vache et le Prisonnier. Le Grand Chef, à ses côtés, il y avait Gino Cervi. Alors peut-être le nom ne vous dira rien, mais j'espère que même les jeunes générations se souviendront que Fernandel et Gino Cervi formeront un duo de choc, l'un prêtre, l'autre mère communiste, dans la série des Don Camillo, dont il y eut 5 ou 6 épisodes, là encore, à très grand succès. Évidemment, le Grand Chef voulait réutiliser en fait ce grand succès de ce duo qui fonctionnait. On va écouter un extrait de cette bande originale, signé Gérard Calvi, Le Grand Chef dans 24 notes. Thank you. Ah ben voilà, c'est fini. La pâte allègre et folâtre de Gérard Calvi pour un extrait de la bande originale du Grand Chef, un film d'Henri Verneuil tourné en 1959. Une façon d'inaugurer, si l'on veut, le style toujours assez comique en fait dans ses partitions de Gérard Calvi. Alors parmi les fidélités de Gérard Calvi pendant sa filmographie, il y a celle à quelqu'un qui est bien oublié aujourd'hui, hélas, mais qui, dans les années 40-50, fit un triomphe à la fois à la scène et à l'écran, comme l'on dit, Robert Derry, qui avait fédéré autour de lui une troupe, celle des branquignols. Alors, le terme est passé, je dirais, dans le langage courant, mais parfois, on a un peu oublié d'où il venait. Difficile de décrire le style des branquignols, surtout que leur origine, c'était la scène, et que, par conséquent, je n'ai pas pu assister à ce genre de spectacle. Disons que ça devait être quelque chose comme l'humour des Monty Python, mais transposé en France et dans les années 40-50. Oui, c'était relativement un comique de l'absurde à la française, qui n'est pas un genre très très répandu. Et Robert Derry fit à la scène un très très grand succès avec ses différents spectacles, comme les Branquignols, qui donna lieu d'ailleurs à un film, et aussi un autre qui s'appelle La plume de ma tante, vraiment des choses bien oubliées depuis, et qu'il tourna, comme on dit, pendant des années et des années, aussi bien en France qu'ailleurs, puisqu'il s'agissait d'un comique très 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 visuel. À la scène comme à l'écran, Robert Derry était accompagné de Colette Brossé, sa chère et tendre partenaire à tout point de vue. Et on va les retrouver dans un film de Robert Derry, donc tourné en 1961. Un film qui s'appelle La Belle Américaine et qui moque un peu la passion française des années 60 pour les grosses voitures américaines. C'est presque tout le sujet du film, la façon dont Robert Derry achète une grosse voiture américaine et ce qu'il en advint. À ses côtés, eh bien, il y a plein d'acteurs de second plan de l'époque, Alfred Adam, il y a même Michel Serrault qui en est à ses débuts, et un autre qu'on voit très fugitivement et qu'on verra très fugitivement pendant de très très nombreux films des années 60, le dénommé Louis de Funès. Louis de Funès qui, avant de connaître avec Gérard Houry les succès que l'on sait, eh bien, enchaîna pendant, je ne sais pas moi, 10-15 ans des seconds rôles, des petites apparitions, et c'était le cas dans La Belle Américaine. La musique était de Gérard Calvi, ce n'est pas un hasard, je l'ai dit, Gérard Calvi a accompagné le parcours aussi bien à la scène qu'à l'écran de Robert Derry, et on en écoute tout de suite un petit extrait, La Belle Américaine, 24 notes secondes. Thank you. La partition très jazzy de Gérard Calvi pour La Belle Américaine, un film de Robert Derry tourné en 1961. Alors pendant qu'on écoutait ce morceau, je regardais les collaborations théâtrales de Robert Derry et de Gérard Calvi. Mais ça débute effectivement en 1948 avec Les Branquignoles, donc déjà cité. Et ça se poursuit apparemment jusqu'aux années 70, puisqu'en 1971, on verra Vogel les Mouettes de Robert Derry donc à la scène et ensuite on le verra aussi à l'écran. Il y avait aussi, mais alors ça apparemment c'était pas un spectacle, Allez France, qui est un film que je recommande aux gens qui n'aiment pas trop le sport, parce que, enfin bref, découvrez-le, Allez France, ça s'appelle tout simplement, avec Robert Derry dans le rôle principal. Et puis il y a un nom qu'on peut associer au Branquignol, un nom lui aussi bien oublié, hélas, alors qu'il fit beaucoup rire dans les années 60-70, c'est celui de Francis Blanche, qui fut évidemment dans les Tontons Flingueurs, mais qui fut bien d'autres choses aussi, anecdote, un grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, là-bas à Londres. Et du coup, voilà un nom qu'il faut évoquer quand on évoque le cinéma français des années 60. Alors, il y a un autre nom qu'on vient d'évoquer et on va le retrouver dans le rôle principal du film dont nous allons écouter un extrait. Le film, il s'appelle Carambolage. Il est tourné par Marcel Bluval en 1963. Alors, au départ, c'était Bernard Blier qui devait tenir le rôle principal, mais justement, il était en train de tourner Les Tontons Flingueurs cette même année 1963. Et du coup, ce fut une des premières chances pour Louis de Funès d'obtenir un rôle principal. Il avait vraiment le rôle principal d'une espèce de chef, d'une directeur d'agent de publicité absolument odieux. Et le film était une sorte de farce burlesque, pas vraiment drôle, mais en tout cas assez sanglante, où l'on voyait un employé ambitieux, incarné par Jean-Claude Brialy, éliminer progressivement tous ceux qui étaient au-dessus de lui dans la hiérarchie, dans l'idée d'arriver évidemment comme chef, et évidemment, tout ne se passait pas comme il le souhaitait. Le film était adapté, ou plutôt trahi, d'après l'auteur d'un roman de Fred Cassac. Il était trahi ou adapté par quelqu'un que lui aussi, on ne peut pas ne pas évoquer quand on parle du cinéma français des années 60, Michel Audiard, qui signait là une de ses énièmes, je dirais partitions, allais-je dire, mais c'est un peu ça, un de ses énièmes dialogues, peut-être un peu trop chargé par rapport au film, qui n'a pas laissé un très très grand souvenir, mais ça ne va pas nous empêcher d'en écouter un petit extrait de la bande originale. Je vous le rappelle, ça s'appelle Carambolage, et le compositeur, il s'appelle Gérard Calvi.
Thank you.
ce ne sont pas les piles de votre radio qui sont en train de lâcher. C'était bien un extrait intégral de la bande originale de Carambolage, un film de Marcel Bluval, une musique de Gérard Calvi. Alors, je ne sais pas du tout quels étaient ces petits bruits façon trille d'oiseaux qu'on entendait. Je ne sais pas quel genre d'instrument les performait. Mais bon, c'était un petit écho, à vrai dire, plutôt réussi, par la musique, hein, je parle, de restituer l'atmosphère de ce film qui hésitait entre la comédie demeure, la satire contre le monde de la publicité, et puis aussi des côtés sinon gore, du moins relativement sanglants. Il y avait Michel Serrault qui jouait un inspecteur de la police qui, visiblement, c'était très très visible, avait travaillé rue Lauriston, la tristement célèbre rue Lauriston pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était le siège de la Gestapo, qui en avait gardé à la fois les méthodes et le vocabulaire. Et puis à la fin, comme un cheveu sur la soupe, on voyait une apparition irradiante, et c'était l'époque, hein, de Alain Delon, qui jouait un rôle dont je vous passe le détail dans quelques minutes. Bref, un film relativement bizarre, et celui que nous allons évoquer maintenant ne l'est pas moins. Il faut dire que la filmographie de Jean-Pierre Mocky, qui fut l'un des grands hommes du cinéma français des années 60-70, après, il le resta, mais de façon complètement confidentielle, jusqu'à la fin de sa carrière et de sa vie aussi, puisque les deux étaient complètement inséparables. Jean-Pierre Mocky, qui aura tourné un nombre absolument incalculable de films, bah, si, je suppose qu'on peut le calculer, mais je ne l'ai pas là sous la main dans mes petite fiche, eh bien en 1964, il mit en vedette celui qui était un de ses acteurs préférés et auquel il rendit hommage longuement, Bourville, dans une adaptation à la Mocky, dirons-nous, d'un roman vaguement d'épouvante, d'horreur, signé Jean Rey. Alors Jean Rey, peut-être un nom qui ne dit pas grand-chose maintenant, mais Jean Rey fut une sorte de littérateur fou. Lui aussi, comme Mocky, a écrit on ne sait plus combien de romans, notamment la fameuse série des Harry Dickson, un détective qui empruntait éhontément, il faut bien le reconnaître, ses principaux traits à Sherlock Holmes, mais avec une manière belge, puisque Jean Rey était belge, d'aborder le mystère, l'horreur, le fantastique, et donc la cité de l'indicible peur, puisque c'est le titre du film de Jean-Pierre Mocky, tourné en 1964. Et bien, comme son titre l'indique, se passait quelque part dans le Cantal, plus précisément, pour ceux que ça intéresse, à Salers. C'est une très très jolie ville avec une partie qui date du 15e siècle. Et donc, on retrouvait des sorciers, des magiciens, des enchantements, des malédictions, le tout avec la patte Mocky et puis une fidèle troupe d'acteurs, très peu d'actrices, il faut bien le reconnaître, Jean-Louis Barrault, Francis Blanche, déjà cité, Dufilho, Victor Francène, Raymond Rouleau, etc., dont certains ont beaucoup suivi Jean-Pierre Mocky pendant toute sa carrière. C'est aussi le cas de Gérard Calvi. On écoutera, je pense, un extrait d'une autre bande originale après celle-là. Mais on va commencer par La Cité de l'Indicible Peur. Jean Rey, Gérard Calvi, Jean-Pierre Mocky, je n'ai oublié personne. Ah si, l'émission, elle s'appelle 24 notes, seconde. le burlesque parfaitement adapté au style de Jean-Pierre Mocky pour la cité de l'indicible peur. Alors, dans un premier temps, le film s'est appelé La Grande Frousse. On ne sait pas trop pourquoi. Il faut dire qu'à sa sortie, les producteurs avaient demandé à Jean-Pierre Mocky d'ajouter des scènes, de modifier des trucs, enfin bref, de dénaturer son film. Et Jean-Pierre Mocky, c'était d'ailleurs pour ça qu'il a été indépendant jusqu'à la fin de sa vie. Quand il le put, racheta les droits de son film, le remonta tel qu'il l'avait voulu et le proposa comme tel au public. C'est beau, le passé simple, non? Et du coup, le Cité d'Indicible Peur est restitué tel que le voulait Jean-Pierre Mocky. Et à partir de là, d'ailleurs, Jean-Pierre Mocky, jusqu'à la fin de sa vie, continuera à tourner très largement, mais des films à très petit budget avec des amis et qu'il finançait entièrement tout seul. Du coup, il n'avait pas besoin de producteur pour lui imposer ses vues. Et c'était, il faut bien le dire, un des derniers hommes libres du cinéma français. Mesdames et messieurs, on va écouter encore un extrait d'une autre bande originale de Jean-Pierre Mocky, mais je voulais quand même évoquer aussi le fait que Gérard Calvi a été aussi compositeur de chansons, et pas des moindres, puisqu'il composa notamment pour Edith Piaf, excusez du peu, et même aux États-Unis pour Liza Minnelli ou Frank Sinatra. Ma foi, il y a des partenariats moins prestigieux. On lui doit aussi, je l'ai dit, quelques opéras ou opérettes, notamment la Polka des Lampions en 1961 avec Georges Guettari et Jean Richard. Là encore, toute une époque. La Mélodie des Strapontins, c'est joli, je trouve, comme titre, en 1984. Et même un opéra d'après une pièce d'Eugène Ionesco, d'après la pièce la plus connue d'Eugène Ionesco, La Cantatrice Chauve. Bref, un homme multicarte, c'est un peu déplacé. Un multi-instrumentiste, c'est plus adapté, puisque comme on l'a écouté dans les partitions qui viennent de passer, Gérard Calvi savait utiliser de façon un peu démonstrative, parfois burlesque, les violons, les flûtes. C'est rare un compositeur qui fait rire avec de la musique. C'était le cas de Gérard Calvi. Comme promis, on écoute un autre extrait d'une bande originale de Jean-Pierre Mocky, un film cette fois de 1967, avec dans les rôles principaux Michel Serrault, Francis Blanche encore, quand je disais que Mocky était un homme de fidélité, Claude Riche. Le film, il s'appelle Les Compagnons de la Marguerite, et je n'ai pas grand-chose à en dire de plus, si ce n'est que vous êtes bien sur 24 notes secondes. Ça se finit un peu brutalement, ça ne va pas être le cas de notre émission, mais elle est pratiquement terminée. Comme je l'ai déjà dit, Gérard Calvi nous a quittés le 20 février 2015, mais il y a bien longtemps qu'il avait quitté les écrans, si je puis dire, en tout cas qu'il ne composait plus, puisqu'apparemment sa dernière partition date de 1990, quelque chose comme ça. Peu de choses notables dans cette partition, mais quand même un film dont le titre reste un mantra, encore au 21e siècle. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Un film de Jacques Bénard, évidemment, un scénario et des dialogues de Michel Audiard, vous l'aurez deviné, peut-être pas le plus remarquable des films dont Gérard Calvi aura signé la musique. Et on se quitte en écoutant un extrait de la bande originale des 12 travaux d'Astérix, un film sorti en 1976, signé des regrettés René Goscinny et Albert Uderzo, avec Roger Carrel Astérix et Jacques Morel Obélix, toute une époque dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye, partout à tous.